Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, notre invité est aujourd'hui Michel Serres, dont je rappelle qu'il a été reçu à l'Académie française le 31 décembre 1991. Véritable trouvère du progrès scientifique et technique, vigile chaleureuse de la conscience, philosophe qui donne envie d'apprendre, Michel Serres se situe quelque part entre Montaigne, Diderot et d'Alembert, sur ces sentiers de haute cime où la sagesse cherche à rencontrer un savoir quasi encyclopédique qui accorde spontanément au développement des sciences et des techniques une place essentielle que trop d'intellectuels contestent avec suffisance. Michel Serres, bonjour.
Bonjour.
Nous allons, si vous le voulez bien, essayer de discerner avec vous les principales perspectives ouvertes par votre dernier livre, publié aux éditions Le Pommier, et intitulé « Temps des crises », avec un sous-titre qui annonce d'emblée la couleur, puisque ce sous-titre très long est le suivant. Mais que révèle le séisme financier et boursier qui nous secoue aujourd'hui? Et si nous vivons une crise, aucun recours en arrière n'est possible, il faut donc inventer du nouveau. Alors, pour vous, la crise économique et financière déclenchée en 2007 n'est qu'un phénomène mineur par rapport à des bouleversements que notre monde a vécu depuis une soixantaine d'années?
Oui, un demi-siècle, en effet. Quelque chose comme ça, enfin, après la Seconde Guerre mondiale. Oui, 50, 60 ans, vous avez raison. Oui.
Et alors ça touche l'agriculture, ça touche les transports,
à peu près tout. On peut en faire la liste, si vous voulez, rapidement.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Le premier que je signale, c'est en effet l'agriculture, vous venez d'en parler, puisque au début du siècle, 1900, en France et dans les pays analogues aux nôtres, disons, nous sommes autour de 60-65% d'agriculteurs et de métiers qui ont rapport à l'agriculture. Et à la fin du siècle, en l'an 2000, il y a 2,1% d'agriculteurs et la tendance est encore à la baisse puisqu'aujourd'hui, nous en sommes à 1,7% d'agriculteurs.
Alors vous dites on quitte le néolithique,
alors,
c'est ça?
Oui, c'est-à-dire j'ai essayé d'inventer un procédé de mesure. Parce qu'on peut dire toujours que lorsqu'on vit une période, on la trouve tellement nouvelle qu'à toute période, on croit qu'elle est absolument nouvelle. Alors j'ai essayé de mesurer la quantité de nouveautés. Et la nouveauté, à un moment, je dis dans mon livre qu'elle est proportionnelle à la longueur du temps que l'événement évoqué arrête. Et l'événement que j'évoque là, c'est l'effondrement quasi vertical du nombre des agriculteurs, c'est-à-dire de la population rurale. Or, quand cet événement a-t-il commencé? Eh bien, il a commencé lorsque certains de nos ancêtres géniaux ont commencé à domestiquer des espèces de faune et de flore, c'est-à-dire le néolithique en effet. Et on peut dire avec apparence que la fin du XXe siècle sonne la fin du néolithique, ce qui est un événement majeur, évidemment, très important. Tellement important qu'évidemment, il est passé sous silence et que jamais aucun média ne l'a cité, bien sûr. Ce qui prouve que Saint Paul a raison lorsqu'il dit que les nouveautés arrivent comme un voleur dans la nuit, ou que Nietzsche a raison lorsqu'il dit que les nouveautés arrivent sur les pattes de colombe. Mais des nouveautés aussi colossales, vous voyez. Alors évidemment, cela impose une différence considérable dans notre rapport au monde, dans notre rapport à la nature, dans notre rapport au vivant, dans notre rapport au climat, et ainsi de suite. L'homme des villes, le rat des villes n'est pas tout à fait de la même contexture que le rat des champs. Voilà.
Alors,
pour l'agriculture.
Deuxième grand thème donc de révolution, la mobilité non seulement des personnes, mais aussi des choses.
Des choses, bien entendu, parce que le chiffre qui est tombé dans les années 2006-2007, c'est que dans un grand magasin américain, la moyenne de distance de l'origine des choses qui sont vendues, statistiquement, est entre 8 et 10 000 km. Vous voyez ? C'est-à-dire ce qui est vendu dans un grand magasin vient de 8 à 10 000 km.
Alors, ce à quoi on ne pense pas, oui, pardon.
Deuxième chiffre, en 2008, je crois, ou en 2007, les compagnies aériennes ont transporté le tiers de l'humanité, c'est-à-dire 2,5 milliards de personnes. Évidemment, ce sont souvent les mêmes, disons. Mais quand même, le chiffre est colossal. C'est-à-dire, on voit très bien que la mobilité, là, des personnes, des choses, mais cette mobilité date d'il y a longtemps, puisque finalement, l'homme s'est mondialisé au fur et à mesure de ses pérégrinations, 60 000 ans pour les aborigènes australiens, 25 000 ans pour nos amis d'Amérique, etc. Mais enfin, maintenant, le transport a bondi de façon colossale. Alors bien entendu, on oublie toujours que dans les transports, on voit très bien les hommes sortir des bateaux et débarquer, mais on ne voit pas la nuit les rats sortir du bateau, Mais même si on voyait les rats, on ne voit pas les puces sortir de la pelure des rats. Et on ne voit pas surtout les microbes sortir des puces. Et vous voyez, cette espèce de décomposition de l'émigration qui fait que c'est les microbes les plus importants, bien entendu, et qu'au moment où on a conquis l'Amérique, ce n'est pas les Espagnols qui ont tué les Indiens, c'est la grippe. Vous voyez, au moins quantitativement parlant.
Tu veux dire que ça met en cause nos systèmes immunitaires?
Alors, ça met en cause souvent, c'est-à-dire probablement dans l'évolution des maladies infectieuses aujourd'hui, cette mobilité sera un événement, enfin, une cause très importante de notre carte des maladies infectieuses. D'ailleurs, l'OMS le sait, ça, déjà.
Alors, troisième niveau de changement, mais radicaux, là,
c'est, alors, c'est la santé.
Oui.
Ah, c'est la santé. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est-à-dire que dans les années qui sont, disons, après la Seconde Guerre mondiale, disons des années 50 à 70, par exemple, on voit arriver les antibiotiques, les sulfamides, etc. Et on sait statistiquement qu'un médecin, un peu avant la Seconde Guerre mondiale, sur 10 patients, avait 3 syphilitiques, 4 tuberculeux et 3 autres. À partir des années 45-50, il n'y a plus que les 3 autres. Puisqu'avec le rimifon d'un côté et la pénicilline de l'autre, les maladies infectieuses sont pas éradiquées, mais enfin sont vraiment soignées. Et on peut dater, je crois, la médecine efficace de cette période-là. C'est-à-dire à ce moment-là, il y a une révolution considérable dans les pratiques médicales, de telle sorte que les résultats de ce changement sont majeurs. Et en particulier, je prends l'exemple de la douleur. On pourrait écrire une histoire de la douleur et dire à quel point nos ancêtres ont souffert. Ils ont souffert d'une manière que je ne crois pas que mes contemporains puissent imaginer. La douleur était une expérience inévitable et quotidienne, pratiquement.
D'où sa place dans les religions, d'ailleurs.
Oui, on dit aujourd'hui que les religions sont doloristes, vous voyez. Mais c'est un jugement inique, c'est-à-dire on ne comprend plus que les morales autrefois n'étaient pas pour régenter forcément la vie, mais c'était simplement des exercices pour pouvoir supporter cette douleur inévitable et quotidienne. Des exercices, tout simplement. Alors, ils étaient doloristes, évidemment, mais ils étaient antidouleurs. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, un médecin peut trouver dans son cabinet un homme, un académicien de 60 à 70 ans, qui n'ait jamais souffert. Et cet homme est unique dans l'histoire, est nouveau totalement dans l'histoire. Et en effet, on peut trouver statistiquement. Je ne dis pas que nous ne souffrons plus, bien entendu. Il y a toujours la souffrance, il y a toujours de la douleur. Mais dans les pays analogues aux nôtres, la douleur a statistiquement, s'est statistiquement effondrée au cours des années 70-90. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et elle est devenue aujourd'hui un scandale, au lieu d'être une expérience quotidienne. Et du coup, nos contemporains ne savent pas à quel point ils n'ont pas le même corps que leur grand-père, que leur arrière-grand-père. Vous voyez, le corps a brutalement changé. Et en particulier, il a changé sur un point que je m'amuse à citer.
Ah oui, les boutons.
Oui, c'est-à-dire, on se déshabille sur les plages. Et tout le monde croit que c'est pour des questions sexuelles, érotiques, etc. Oui. Mais pas du tout. C'est que notre corps est devenu visible. Parce que jadis, eh ben, il était plein de cicatrices, de plaies purulentes, de bubons. Rappelez-vous quand même qu'en 70, l'OMS éradique la petite vérole. Attention, ça, c'est une date colossale. C'est-à-dire, un groupe de médecins ne guérit pas un malade, mais une maladie dans le monde. C'est-à-dire, elle n'existe plus. Or, la petite vérole, dans un cas sur 10, couvrait le corps de traces indélébiles. Et du coup, comment voulez-vous se déshabiller? Maintenant, notre peau est visible, et donc on peut se déshabiller.
Alors, la quatrième révolution, vous la mettez même au même niveau que l'écriture et que l'imprimerie, c'est l'ordinateur et Internet, pour faire simple.
Je voudrais m'arrêter encore sur la précédente une
minute,
vous en prie, s'il
vous
plaît.
Vous en prie.
Je donne un exemple là qui peut-être vous donnera un écart considérable. C'est la généralisation de la péridurale. On n'y pense pas à ça, ça ne fait pas la une des journaux non plus. Mais les choses importantes ne font jamais la une des journaux. Il n'y a jamais de nouvelles dans les nouvelles. Mais je vous annonce une nouvelle, la généralisation de la péridurale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que les femmes ont la possibilité, les mères ont la possibilité d'accoucher sans douleur. Et toutes, puisque maintenant c'est généralisé. Très bien. Mais de quand date la douleur de l'accouchement ? Tu accoucheras dans la douleur. Maintenant, nous le savons, bien sûr. Homo néandertalis n'accouchait pas dans la douleur parce que sa femelle avait le bassin très large, lui aussi d'ailleurs. Et lorsque Homo sapiens paraît, son bassin est beaucoup plus étroit, et voilà que sa femelle accouche dans la douleur. Par conséquent, cette nouveauté appelée généralisation de la péridurale arrête un événement qui a commencé quand ?
Sapiens.
7 millions d'années, 6 millions d'années.
Autrement colossal. Dit, c'est un retour au Néandertal.
Oh bien, oui, c'est ça. C'est colossal, vous voyez. C'est ouais, colossal. Et ces événements-là, mais voilà, personne n'en parle, vous voyez. C'est quand même étrange. Et donc, mon livre consiste à dire, vous voyez, il y a
des sourcier,
un événement majeur qui se sont passés sans que personne le voie. Et nous sommes en train de vivre une crevasse, une profondeur, une largeur, mais colossale, sans que nous nous en apercevions.
Alors, venons-en au quatrième domaine de changement. Cela, quand même, les gens s'en sont rendus compte. Peut-être pas en en tirant toutes les conséquences, mais l'ordinateur, Internet, les nouvelles technologies. Et je disais à l'instant, donc vous accordez à ça autant d'importance qu'à la découverte de l'écriture et qu'à la découverte de l'imprimerie. Donc c'est quand même pas peu.
Mais c'est peu, puisque par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même assez peu, puisque la longueur du temps que les problèmes de médecine mesurent, c'est 7 millions d'années. Là, nous n'en sommes pas à 7 millions d'années. Et je finissais aussi, je crois, dans le chapitre précédent sur lequel j'insiste encore, sur l'augmentation de l'espérance de vie.
Bien sûr,
l'espérance de vie chez Musset, chez Balzac, était pour les femmes de 30 ans. 30 aujourd'hui, ans. C'est 85 ans. Vous voyez, ce n'est plus la même femme. Ce n'est plus le même mariage. Mais revenons aux nouvelles technologies, si vous voulez. Alors, pour caractériser les nouvelles technologies sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, beaucoup parler, puisque j'ai été pendant très longtemps monsieur Nouvelle Technologie à propos de l'enseignement.
Oui, vous étiez un éclaireur d'ailleurs, hein, parce que vous disiez les choses bien avant les autres. Là.
Oui, mais à cet égard d'ailleurs, j'ai un souvenir délicieux. J'avais fait un rapport au gouvernement pour l'enseignement à distance et on avait réuni un comité de sages, 10 sages, dont il y avait je crois, 5 ou 6 académiciens dans ce comité de sages, qui a, dans Le Monde, fait un grand article en disant « Ce rapport a été fait par un visionnaire stupide qui ne comprend pas du tout, etc. » C'était délicieux. Je me rappelle avoir été très contente d'avoir été condamnée unanimement par tout le monde quand j'avais dit ça. Mais enfin bref, les nouvelles technologies, oui, mais il faudrait avoir une heure pour en parler. Et donc, je préfère prendre un exemple. Et l'exemple, c'est le mot « adresse », tout simplement. Si vous me donnez votre adresse, vous allez dire 23 Quai de Conti, Paris 6e. Et dans ce 23 ou dans ce 75006, il y a des nombres, n'est-ce pas? Et ces nombres désignent des distances. C'est-à-dire le 23 est à telle distance du 0 ou du 1, n'est-ce pas? Et puis 06, ça veut dire que vous êtes entre le 5e et le 7e, donc repéré par rapport à des coordonnées. Et donc, votre adresse montre que vous habitez un certain espace. Et cet espace, c'est l'espace de Descartes, l'espace d'Euclide, l'espace des maçons, ce qui permet de construire, etc. Mais vous savez qu'à cette adresse-là, vous ne recevez désormais que de la publicité que vous mettez à la poubelle tous les matins, bien sûr. Et en fait, maintenant, votre vraie adresse est 06 30 62, enfin, votre téléphone cellulaire. Portable est un anglicisme, alors je préfère dire cellulaire. De Canal Académie.
Très bien.
Ou alors michel.serre@wanadoo, etc. Ce n'est pas le vrai, ne vous en faites pas. S'il y a des auditeurs qui veulent m'envoyer, ça ne marchera pas.
Qu'ils vous adressent quelque chose à Canal Académie, on transmettra.
Et là, les chiffres ou les lettres désignent un codage. Et par conséquent, cette adresse-là ne se réfère pas à l'espace de tout à l'heure. C'est-à-dire que votre adresse est valable, ces deux adresses, que ce soit l'ADEL au sens des Québécois, adresse électronique, ou l'adresse sur le téléphone portatif, elle est valable si vous êtes en Nouvelle-Zélande, en Laponie ou à Landerneau, n'est-ce pas? Ou que vous soyez dans l'espace de tout à l'heure, donc vous n'habitez plus le même espace. Et qu'est-ce que c'est cet espace? Eh bien, il est assez nouveau, c'est l'espace d'un triple accès. C'est l'espace qui vous fait accéder ad libitum à n'importe qui par le cellulaire, à n'importe quel lieu par le GPS et à n'importe quel savoir par la toile. Triple accès universel. Et cet accès est tel que vous êtes au voisinage de tous les lieux, de toutes les personnes et de tous les savoirs. Donc c'est un espace de voisinage. Alors ne dites pas qu'il annule les distances, puisqu'il n'y a plus de distance. Et cet espace, les académies des sciences le connaissent mieux que les académiciens. Mes collègues de l'Académie française s'appellent un espace topologique, c'est-à-dire un espace de voisinage. Nous avons changé d'espace. Oui. C'est assez extraordinaire. Et ça a des conséquences colossales, parce que le mot « adresse » ne veut pas seulement dire le lieu où vous habitez. L'étymologie, c'est « directus », c'est-à-dire le droit. Et dans « directus », il y a « dit ». « Rectus », c'est-à-dire le roi. C'est-à-dire qu'adresse est à la fois juridique et politique. Et cette adresse à laquelle vous habitiez jadis le roi et le droit le connaissaient parce qu'ils pouvaient envoyer le gabelou ou le gendarme vous servir par corps si vous n'aviez pas accompli vos obligations militaires, par exemple, ou si vous avez commis un délit ou un crime. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être saisi par corps à l'adresse en question. Donc cela implique qu'il faut changer et le droit et la politique. Et nous ne l'avons pas fait.
Oui, alors...
Nous habitons un espace qui impliquerait un autre droit et une autre politique que nous n'avons pas inventé.
Alors, vous dites donc, face à cette crise fondamentale, hein, vous rappelez même que cette crise met en cause la trilogie de Georges Dumézil, le monde régenté par la religion, l'armée et l'économie. Ça s'est terminé aussi,
oui.
Ça ?
Oui, enfin, c'est terminé. Je parie que c'est terminé, oui, parce oui. que nous sommes au contraire régentés complètement par l'économie. La preuve, c'est
oui,
que
la
plupart des gens considèrent que la crise n'est que économique ou n'est que financière ou bancaire.
Pour cette crise, justement, vous dites réagir à cette crise par des plans de relance, ça n'est pas une solution. Comme essayer de faire appel à la morale pour changer les comportements, ça n'est pas non plus une solution. On n'est pas du tout à ce niveau-là.
Non.
Et vous prenez l'image de la médecine, de la
oui.
crise en médecine.
Exact. Alors, l'image de la crise en médecine est très intéressante pour la raison suivante. C'est que les médecins, les biologistes utilisent le terme « crise » pour désigner l'apex, le sommet, d'une maladie, c'est-à-dire le moment majeur de cette maladie, qui met l'organisme en danger. Et l'organisme est en danger pourquoi ? Parce qu'il doit choisir très vite entre deux voies. La voie du salut ou la voie de la mort. C'est-à-dire la crise de cœur va vous tuer, une attaque va vous tuer, etc. Et puis, si vous n'êtes pas mort, alors vous guérissez. Et alors, maintenant, il faut savoir ce que c'est que la guérison. Et ça, c'est très intéressant. Et maintenant, les médecins ou les biologistes ont une philosophie de la guérison beaucoup plus intéressante qu'autrefois, parce qu'on pensait toujours plus ou moins inconsciemment que la guérison était le retour à l'état antérieur, à l'état de santé. Mais bien entendu, si on raisonne un peu, on s'aperçoit que si vous revenez au statu quo ante, à l'état antérieur, vous allez vous trouver dans les mêmes conditions qui vont vous précipiter dans la même maladie et dans la même crise. Donc vous allez recommencer le même scénario en cercle et vous allez retrouver la même crise si vous allez au statu quo ante. D'ailleurs, pas seulement en médecine, toute l'histoire du 19e siècle en France montre l'évidence de cette chose. Révolution, restauration, révolution, restauration, révolution, Second Empire, révolution. Vous voyez, il y a toujours, vous revenez en arrière et vous retombez sur la crise, vous revenez en arrière et vous retombez sur la crise. Et donc le statu quo ante n'est pas une bonne idée pour penser la guérison au sens médical du terme. Et les médecins ont dit, eh bien voilà, c'est que l'organisme a la puissance extraordinaire d'inventer un nouvel état. Un nouvel état. Et ça m'a tellement ébloui quand j'ai appris ça, il y a déjà des années, que je me demandais même si ce n'était pas ça la définition de la vie. Que la vie, c'est l'invention
permanente
du nouveau, l'invention de la nouveauté. C'est-à-dire, l'organisme guéri n'est pas le même organisme que l'organisme qui était tombé malade et qui est allé jusqu'à la crise. Ce n'est pas le même. L'organisme a de soi et inconsciemment inventé du nouveau. Et donc, si on est en crise, il vaut mieux inventer du nouveau que revenir avec des mots comme vous avez...
Sinon, il se passe
relance,
comme...
avec des re, vous voyez, des retours.
Avec dans les re, vous citez l'exemple de 1929 en y associant une image à laquelle on ne pense pas, c'est-à-dire que vous dites 1929, on n'a pas réagi, nous sommes restés dans les comportements anciens, résultat 100 millions de morts.
C'est,
un lien qu'on ne fait jamais, ça.
Si, je crois quand même que certains livres d'histoire l'ont fait quelquefois.
C'est rare, c'est rare.
C'est rare, oui.
C'est rare. Et donc, il y a aussi un autre aspect des choses, donc les hypothèses de relance, les hypothèses de moralisation de l'économie. Alors, quand on
ça
discute.
Ça ne vous fait pas rire
mais, écoutez, quand on parle de ça.
Faire la morale, c'est juste.
Oui, d'ailleurs, vous dites quelque part une chose tout à fait étonnante. Tiens, j'en ai pas parlé. Vous dites, regardez ce qui s'est passé depuis 2 ans. Au fond, ce sont les pauvres qui payent pour les riches.
Écoutez, ça, c'est bien normal. Enfin, l'État a renfloué les banques, c'est tout. Et qu'est-ce que c'est que l'État ? C'est vous, c'est moi, c'est nos impôts. C'est-à-dire, c'est les gens qui n'étaient pas au fait de la fortune. Voilà, tout simplement.
Mais alors, quand on discute avec les politiques, hein, et même à très haut niveau, ce qu'ils vous disent, on ne peut rien faire parce que les gens ne sont pas prêts à changer. Or, vous, vous dites exactement le contraire.
Mais c'est le contraire.
Vous dites le contraire.
Les gens des institutions sont plutôt sur le côté amont de la lèvre de la crevasse. Je note avec étonnement aujourd'hui à quel point le populaire ou la masse est tellement plus en avance que ses propres élites. Vous ne trouvez pas ? C'est étrange. Je vais vous raconter une petite fable à la mode de La Fontaine. Supposez par exemple qu'on vous dise que celui qui réussit, c'est celui qui montera le plus vite sur cette montagne-là. Alors, à un moment, l'arbitre dit « on arrête ». Et puis il y a quelqu'un qui se trouve en haut de la montagne, d'autres qui se trouvent au moitié de la montagne, d'autres qui se trouvent au bas de la montagne. D'accord ? Et alors on dit, ben voilà, c'est l'image de la société, il y a la classe dominante ou les décideurs, puis la classe moyenne, et puis ensuite la classe la plus basse. Nous sommes d'accord là-dessus ? Très bien. Évidemment, ceux qui montent le plus rapidement, c'est ceux qui ont les moyens, qui ont les muscles, qui ont le souffle, enfin bon. Et puis tout d'un coup, l'arbitre dit, écoutez, je m'excuse, je viens de me tromper gravement. C'est pas la montagne A qu'il fallait monter, c'est la montagne de l'autre côté, la montagne B. Et alors, il siffle et il dit « on recommence la course ». Mais qui est en avance là ? C'est ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en haut, il faut qu'ils dégringolent de l'ancienne montagne. Et vous savez que descendre les montagnes, c'est beaucoup plus dur que de la monter. Si vous avez fait de l'alpinisme,
vous qui êtes,
beaucoup plus difficile. Et par conséquent, il faudra descendre et remonter l'autre montagne. Et nous sommes là. C'est-à-dire, il y a une autre montagne inconnue, imprévisible, et qui est devant nous. C'est la montagne qui a été décidée par ce tremblement de terre que nous avons connu.
Alors vous dites...
Et alors voilà, qui va la monter, là, maintenant, cette montagne-là ? Il y en a qui ont pris du retard.
Parce que vous dites, non seulement les Français sont prêts au changement, mais en plus, ils ne sont mais pas du tout dupes de la politique spectacle.
Voilà, je ne sais pas s'ils ne sont pas dupes, si je crois quand même que beaucoup sont dupes. Mais je crois que, enfin, ce n'est pas moi qui ai inventé l'état spectacle, ce n'est pas moi qui ai inventé la civilisation du spectacle. C'est...
Non, mais vous faites référence à Aristote, d'ailleurs, de temps en temps.
Oui,
à ce
c'est
sujet-là.
Aristote,
c'est drôle,
c'est
ça.
Louis XIV a inventé. Regardez,
Aristote, rappelez pourquoi, parce que pour Aristote, c'est drôle.
Aristote, il dit que l'essence du spectacle, c'est la terreur et la pitié, oui, tout simplement. Quand on voit la télévision, et là, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est la terreur et la pitié qui attirent le plus la... L'audimat, comme on dit
ça
aujourd'hui.
Ça débouche aujourd'hui sur le chagrin. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Oui. Alors, il y a, vous ne le savez peut-être pas, mais ça s'est passé avant-hier, donc le mardi 9 février 2010, séance de l'Académie des sciences, la séance portée sur la biodiversité face aux activités humaines. Et savez-vous par quoi s'est terminée cette séance ?
Je vous écoute.
Eh bien, par une phrase de vous.
Ah bon ?
Oui, une phrase de vous. « La Terre, jadis notre mère, est devenue notre fille. » Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ben, c'est-à-dire qu'autrefois, nous considérions que nous étions d'ailleurs issus de la Terre. Le mot « homo » veut dire « humus », c'est-à-dire que nous avons été modelés par le Créateur éventuellement ou par la nature avec de la Terre. « Homo », c'est « humus », vous voyez. Donc la Terre est bien notre mère, mais aujourd'hui, nous l'avons tellement conquise, comprise, etc., que nous en sommes désormais responsables et que le jeu en question s'est retourné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne descendons pas de la Terre, mais elle descend de nous.
Alors, dans votre livre, vous dites également sous une autre forme, hein, vous dites « le monde d'objets est en train de s'imposer à nous comme sujet ».
Oui.
C'est la même idée, ça, ou c'est autre chose ?
C'est une idée... C'est une
essentielle,
idée,
hein, pour vous.
Essentielle, oui. Alors, essayons de voir. Dans l'Antiquité, les sages faisaient une distinction fondamentale entre les choses qui dépendaient de nous et les choses qui ne dépendaient pas de nous.
Les stoïciens, en particulier.
Oh, presque toutes les morales, même les épicuriens, vous savez, ils étaient à peu près tous d'accord sur cette distinction-là. Et à partir de, je sais pas moi, de l'avènement de la modernité technique, Descartes par exemple, ben, nous avons attaqué cet ensemble des choses qui ne dépendaient pas de nous. C'est-à-dire des choses qui ne dépendent pas de nous en dépendent de plus en plus. Et je l'ai noté tout à l'heure. L'âge dépend de plus en plus de nous, la manière de faire des enfants et la date d'accouchement dépendent de plus en plus de nous. Si j'avais dit à votre grand-père ou votre grand-père que le climat dépendrait de nous un jour, il aurait ri. Et aujourd'hui, on est bien forcé de voir avec le GIEC et Copenhague que le climat dépend de nous. Par conséquent, les choses qui dépendent et pas de nous dépendent de plus en plus de nous. Ça, c'est le deuxième acte. L'Antiquité, c'est d'un côté, ce qui ne dépendait pas de nous, de l'autre, ce qui dépendait de nous. Aujourd'hui, la plupart des choses dépendent de nous. Attention, ça, c'est l'état d'hier ou d'avant-hier. Mais aujourd'hui, il y a un nouvel état, un troisième état, que je caractérise par la phrase suivante. Nous dépendons de plus en plus de choses qui dépendent de nous. Ça fait un cycle absolument nouveau, et c'est d'une nouveauté étrange. Parce qu'autrefois, il y avait en effet des choses qui dépendaient de nous, sur lesquelles on pouvait agir, et puis les choses indépendantes. Maintenant, nous dépendons des choses qui dépendent de nous. Et ça, c'est un état prodigieusement nouveau.
Et dans un monde qui s'est mis à parler, hein, vous le dites dans votre livre, fonte des glaces, montée des eaux, ouragan, pandémie infectieuse, la bio-G se met à crier.
Voilà. Alors, j'ai inventé le mot bio-G pour
ça,
parler.
C'est, drôle, oui.
C'est plutôt un bon concept, oui, de dire les choses composées à la fois des éléments terrestres et des vivants. D'ailleurs, je dis entre parenthèses, et puisque vous parliez de l'Académie des sciences tout à l'heure, lorsque j'ai écrit ce livre, j'ai pensé, en l'écrivant, que la première partie était beaucoup plus importante que la seconde. Et à mesure que ce livre se détache de moi, ça fait 3 mois, 4 mois, je pense maintenant que la seconde partie est beaucoup plus importante.
Parce qu'elle est plus novatrice.
On va
l'analyser, d'ailleurs.
Oui.
Mais d'abord, le premier constat, c'est que vous nous dites, enjeu premier, faire la paix avec la Terre. Quoi.
Oui, bon, mais ça, je l'avais déjà dit dans le contrat, dans le contrat naturel. Hein, c'est-à-dire le contrat naturel date déjà de 20 ans, 25 ans, je crois, un truc comme ça, où j'avais été là aussi vilipendé, critiqué, mis au pilori, traité de tous les noms, parce que j'avais donné l'idée d'un contrat naturel. Mais ça, l'idée de symbiose était déjà dans le contrat naturel. Ce n'est pas ça qui est important dans mon livre.
Il y a beaucoup de choses. Hein, y a beaucoup de choses. Oui. On va les prendre une par une, si vous voulez.
Hein,
première chose, vous nous dites, on ne peut pas se contenter des institutions internationales que nous avons pour gérer ces crises-là.
Exact.
Pour faire face.
Exact.
Pourquoi ça?
Alors, tout simplement parce que lorsque vous rencontrez un fonctionnaire d'une institution internationale et que vous lui parlez de l'eau, de l'air, de la terre, de la bio-G, au sens que j'ai donné à ce moment.
Raphaël?
Oui. Il dit, mais je ne suis pas là pour parler de l'eau, je suis là pour défendre les intérêts de mon gouvernement. Et donc, il n'y a pas d'institution mondiale. Il n'y a que des institutions internationales. Et une institution mondiale, ça serait une institution qui représenterait le monde, qui représenterait les arbres, les poissons. Les poissons, ils sont muets comme des carpes, tu me diras. Mais enfin, bon. Les arbres, les fleuves, la mer, etc.
Oui, pour l'eau, l'air, le feu, la terre et les vivants. Quoi.
Voilà, c'est ça,
cinq,
ce que j'ai appelé la Waffle, justement. Je vais vous raconter une histoire.
Allez-y.
Il se trouve que je suis un ancien marin. J'ai été élève de l'école navale.
Vous êtes un cas unique dans l'histoire. Hein, Normale sup et école navale.
Oui, oui. Mais l'école navale est toujours très, très gentille. Et elle m'appelle quelquefois pour faire des conférences aux jeunes fistots. Et j'ai fait une conférence récemment qui m'a beaucoup coûté et qui a troublé beaucoup. Je leur ai dit, votre ancienne mission était de défendre la nation à la mer. Or, nous sommes en paix depuis 60 ans et avec à l'horizon peu d'ennemis plausibles. Vous avez donc aujourd'hui une nouvelle mission. Et cette mission, c'est de défendre la mer. Mais pourquoi? Parce que la mer est morte. Parce que la mer est en train de mourir. Et vous seriez quand même très malheureux de naviguer sur des océans morts. Oui, mais la défendre contre qui? Eh bien, messieurs, je suis désolé de vous le dire. Il faudra sans doute que vous défendiez la mer parfois contre votre propre nation. Ça fait beaucoup de bruit, évidemment. Mais que voulez-vous? C'est vrai. Aujourd'hui, la bio-G doit être défendue. Mais qui va la défendre?
Alors, ce Parlement mondial que vous voulez créer, cette bio-G-là, il serait composé de savants qui diraient un nouveau droit?
Je ne sais plus. Je suis en train de fabriquer une utopie.
C'est merveilleux. Le monde marche par utopie.
Oui, le monde marche par utopie.
Il y a un droit à créer, le droit n'existe pas.
Il y a un droit à créer, mais vous savez, j'ai fait 4 livres sur ce sujet.
Oui, oui,
le contrat naturel, le malpropre, la guerre mondiale et le temps des crises, c'est 4 livres de droit. Hein, c'est-à-dire, le contrat naturel était le fondement du droit, c'est-à-dire le contrat. Le malpropre, c'était un sujet sur la pollution, c'est-à-dire sur l'appropriation, c'est-à-dire sur le droit de propriété. La guerre mondiale, c'était sur la paix dont vous parliez en commençant. Et celui-là, en effet, c'est sur le droit international.
Alors, ce que vous dites, c'est que c'est un domaine où il va falloir créer le droit de l'intérieur, comme au fond pour Internet et pour... C'est la même chose.
C'est-à-dire Internet...
Il faut partir de zéro, quoi.
C'est un lieu de non-droit. L'Internet est un lieu de non-droit. Et toute la question, évidemment, c'est que de ce lieu de non-droit naisse un droit original, bien entendu. Et l'exemple que je prends le plus souvent, c'est l'exemple de Robin des Bois. Personne ne sait ce que ça veut dire, Robin des Bois. Alors, je vais vous raconter. Un bois, c'est un lieu de non-droit. Une forêt, c'était jadis un lieu de non-droit. Et puisque c'était un lieu de non-droit, eh bien, tous les voleurs, les assassins, les violeurs, les gens de sac et de corde se réfugiaient dans la forêt, puisque la police n'avait pas accès dans ce lieu de non-droit. Et puis, tout d'un coup, un voyageur, étonné, voit que tous ces gens, sous ces malandrins, sont habillés de vert avec un petit capuchon et qu'ils obéissent à un héros qui est leur chef et qui s'appelle Robin des Bois. Et qu'est-ce que ça veut dire Robin des Bois ? Des Bois, ça veut dire du lieu d'un endroit, et Robin, mais c'est le magistrat qui porte la robe. Robin des Bois, c'est une contradiction, c'est celui qui a le droit dans le lieu d'un endroit. Ce qui montre effectivement qu'à partir d'un lieu d'un endroit, va se créer un nouveau droit. Mais ce n'est pas tellement nouveau, cette histoire de Robin des Bois. C'est l'histoire de Romulus et Rémus, hein, tout simplement. C'est-à-dire, ils sont nés de Rea Silvia, c'est-à-dire de la forêt. Ils sont nés de la forêt où il n'y avait que des loups. Et ces loups étaient sauvages. Et de ces loups sauvages sont sortis ceux qui ont créé le droit romain. Ils sont sortis d'un lieu, d'un endroit.
Donc une, exactement. Vie, une vie qui se crée voilà. En permanence. Quoi.
Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on est en présence de beaucoup de lieux, d'un endroit, que ce soit à l'Internet ou la biogé, et on est en présence de nouveautés à venir. Il n'y a pas de doute.
Alors, vous dites une chose tout à fait étonnante. Vous dites, au fond, aujourd'hui, nous sommes contraints d'adopter une démarche totalement contraire à celle qui a fondé notre propre culture.
Oui, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire que, normalement, ce qui a fondé notre propre culture, c'est finalement notre assemblée dans une ville et le fait qu'on avait des relations entre nous. Et d'ailleurs, Rousseau et tous les gens qui parlent de contrat social commencent par la guerre de tous contre tous, type Hobbes, et puis ensuite vont dire qu'il y a un contrat. Aucun ne parle du monde. Aucun ne parle du monde. Et aujourd'hui...
On était entre hommes, quoi. On était entre hommes.
On était entre hommes.
Même pas avec les femmes.
Même pas avec les femmes. Et aujourd'hui, il y a un troisième élément qui est en train d'apparaître, et j'appelle ça le jeu à trois.
Ouais,
alors
ça.
Qu'autrefois, il n'y avait que des jeux à deux.
C'est ça, la grande révolution. Quoi.
Ah oui, je crois.
Alors, vous voulez, hein, si j'ai bien compris votre livre, que les savants prennent les premières places, pas en tant que pouvoir, mais en tant que rôle, oui. Dans la définition de ce monde nouveau. Donc, et la triade, alors, je reviens à la triade de Dumézil, les prêtres, les soldats, les producteurs de richesses. Qu'est-ce que vous en faites ? Ils vont se mettre au service des savants, ces gens-là ?
Je ne sais pas, je tâtonne...
Non, c'est pour le prochain livre,
ça ? Je tâtonne dans cette affaire-là. Je dis tout simplement, en me retournant, que tous les événements dont nous avons parlé au début de notre entretien, c'est-à-dire les événements concernant l'agriculture, concernant la santé, concernant la douleur, concernant Internet, etc., on pourrait en ajouter beaucoup, vous avez observé que c'était tous des événements qui, de près ou de loin, avaient rapport avec des découvertes scientifiques.
Tout à fait.
Et oui, les découvertes des analgésiques, découvertes pour la douleur, découvertes des antibiotiques pour les maladies infectieuses, découvertes, etc., vous voyez, bon... Alors, d'une certaine manière, les savants sont plus ou moins responsables de l'état de nouveauté que je suis en train d'analyser. Et oui, mais s'ils sont responsables dans ce cas-là, et il faudrait peut-être qu'ils participent un peu plus à la vie qu'ils ont contribué à créer, c'est ça. Alors, je ne sais pas quel type de... Enfin, bon... Depuis que le livre est paru, il s'est passé un événement amusant. Il s'est passé l'événement suivant. Copenhague a été... Moitié un échec, moitié une réussite. Alors, je passe sur l'échec, que tout le monde connaît, mais la réussite, c'est que quand même, 193 hommes d'État se sont réunis pour un problème concernant la biogé.
Hein. Et puis, une prise de conscience, un début de prise de conscience mondiale.
Oui, quand même, c'est bien. Bon, d'accord. Mais ils étaient là à cause de qui ? Ils étaient là à cause de la GIEC, non ? C'est quand même elle qui a, ou lui, le groupe en question, qui a déterminé, qui a tiré la sonnette d'alarme, qui a attiré les gens là. Et alors, je vois là deux populations qui m'intéressent. Une population d'experts, mais qui ne sont pas élus, donc ils n'ont pas de pouvoir du tout. Et d'autre part, une population d'élus qui sont totalement inexperts. Et alors, la seule chose, c'est de me dire, mais comment ces deux populations pourraient se rapprocher, pourraient collaborer, pourraient... Elles ne peuvent pas rester indéfiniment séparées, vous voyez ? Et c'est ça qui m'amène à penser quelque chose où les savants... Obama a fait rentrer à la Maison-Blanche un prix Nobel, vous l'avez remarqué, vous voyez. Alors que chez nous, on a éliminé de l'Élysée le conseiller à la culture, je crois. Il n'y en a plus. On a l'impression qu'il y a deux politiques en sens inverse. J'ai l'impression, si vous voulez, voilà.
Vous tâtonnez, il va falloir faire quelque chose.
Voilà, c'est ça.
Bon, mais par contre,
les problèmes sont là. Voilà,
ouais. Mais ce que vous affirmez, en tous les cas, de façon décisive, c'est qu'il faut donner la primauté aux sciences de la vie et de la terre. Ça, c'est clair.
C'est autre chose.
Ça, c'est clair.
C'est clair. À mon avis, c'est l'intuition fondamentale du livre, à mon avis. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes en train, comme disent les historiens des sciences aujourd'hui, de changer de paradigme. C'est-à-dire la science que vous avez dans la tête, la science que nous avons dans la tête, la science que les industries, que les économistes, que les politiques ont dans la tête, au fond, c'est l'ancienne science. c'est la science dominée par la physique, dominée par la mécanique, la thermodynamique, etc. Vous voyez ? Et la nouvelle science aujourd'hui qui sera fondamentale et qui sera au centre du dispositif, c'est les sciences de la vie et de la Terre. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire à la fois la biologie, la biochimie des métaux, les sciences de la Terre, etc., les sciences de la biogé, quoi, ce que j'appelle la biogé.
Et vous allez très loin, parce que vous dites non seulement elles vont occuper la première place, mais elles vont susciter une nouvelle politique, un nouveau droit, une nouvelle économie, une nouvelle sociologie. Autrement dit,
c'est déjà
elles
fait.
Vont, elles c'est vont déjà... bouffer les sciences humaines. Quoi.
C'est déjà fait, c'est déjà fait. C'est-à-dire que l'opinion publique est déjà autour de ça. Les problèmes économiques sont déjà autour de ça. Vous voyez, je crois que déjà, elles fédèrent ça. Je n'ai pas dit qu'elles vont bouffer les sciences humaines. J'ai dit que les sciences humaines sont tellement ignorantes des questions de monde, des questions de biologie, etc., qu'il faudra obligatoirement qu'elles se réforment, et très vite.
Parce qui explique la faiblesse des intellectuels aujourd'hui dans notre société ? Ils sont trop à l'écart des scientifiques, trop... Non ?
Peut-être
ça n'a pas
oui.
de rapport ?
Non, non, je crois que les intellectuels ont été vidés de la cité comme les poètes chez Platon.
Ça,
vite,
on
les
dommage,
a exclus, tout simplement.
Mais quand vous dites qu'il faut accorder cette place si importante aux scientifiques, on va vous dire, mais c'est une communauté profondément divisée. Vous parlez du GIEC tout à l'heure et du
Tant
climat.
Tant mieux qu'elle soit divisée, mais la
Tant
communauté
mieux.
Politique est tout à fait divisée aussi. Que je
ça, on avait l'habitude.
Ça, on avait l'habitude. Il y a la droite, la gauche,
l'idée que la science,
le centre, etc.
L'idée qu'on puisse être divisé au nom de la science, certes, il y a eu des grands débats, Galilée et les autres, mais, et vous en parlez d'ailleurs de façon très amusante, mais le GIEC, par exemple,
mais c'est-à-dire que vous
on est un peu paumé, quoi,
mais
pour parler français.
C'est tout le monde de croire que la science, c'est la certitude. Mais ce n'est pas vrai. La science, c'est le tâtonnement, c'est la recherche, c'est le pari, c'est la réaction à l'imprévisible, etc. La science, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Non, la science, que la science soit divisée, mais c'est sa nature. Elle est évidemment beaucoup plus divisée que le monde politique. Le monde politique n'est sans doute pas assez pour représenter son propre électorat. Oui.
Alors le paradoxe, c'est que vous nous dites qu'il faut que les scientifiques soient au premier rang, puisque les vrais problèmes sont là aujourd'hui. Mmh. Or, on a l'impression dans une société comme la nôtre que les scientifiques, on ne les entend pas beaucoup, quoi.
Je vais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup blessé. La France a eu 5 prix Nobel en 3 ans. Pouvez-vous les citer ?
Je sais qu'il y en a un. Il y en a un qui est mort cette année, l'année dernière,
voilà,
de façon
oui,
occulte, presque.
Voilà, occulte. Alors, supposez par exemple que nous transportions les 50 ans, cher ami. Et à l'époque où il y avait Ève Curie qui avait eu le prix Nobel, etc. Mais c'était des héros nationaux. Les prix Nobel dans un pays, à un certain moment, non seulement étaient plus célèbres que les présidents de la République qui ne l'étaient pas, mais étaient des héros nationaux. C'est que la société du spectacle a changé d'acteur, cher ami. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, celui qui est mort récemment, il a inventé, Jean Dossé invite le système HLA, qui a sauvé de la mort des centaines de milliers de patients. Non seulement c'était un héros de la science, mais c'est un héros de l'humanitaire. Ça ne compte plus, monsieur, maintenant. Ce qui compte aujourd'hui, c'est autre chose. C'est d'autres types d'acteurs, un autre type de culture. Alors, quand vous dites que les scientifiques ne comptent pas, c'est pas qu'ils ne comptent pas en réalité. Mmh. C'est qu'on ne les fait pas compter.
On
La preuve,
compter.
C'est que les 5 prix Nobel en question, plus personne ne sait les citer dans le monde des médias. Vous voyez ?
Ouais.
Et alors qu'à l'Académie des sciences, qui est votre canal propre, ben, tout le monde, ils sont là, ils sont encore là, ouais. Ils sont présents. Ouais. C'est alors, vos voisins.
Vous devez quand même vous méfier un peu des scientifiques, parce qu'à la fin de votre livre, vous proposez de leur faire prêter 2 serments.
Oui.
Très intéressant d'ailleurs, l'un sur la finalité de leur travail, 2 sur leur position par rapport aux autres pouvoirs.
Voilà, alors
Vous les avez en tête, les serments, ou vous voulez qu'on les lise ?
On pouvait les lire, mais je les sais par cœur, bien entendu.
Alors pourquoi leur faire prêter des serments ? Est-ce que c'est un signe de défiance ?
Non, tout simplement. Il y a 2 millénaires et demi de ça, au 5e siècle avant Jésus-Christ, un grand savant grec s'est aperçu que la médecine devenait efficace. Et dès lors que la médecine devient efficace, le praticien a en main la vie et la mort de son patient.
C'est Hippocrate, c'est ça.
Alors, il devient d'une responsabilité nouvelle et d'une certaine manière terrifiante. On ne peut pas donner cette responsabilité à n'importe quel voyou. Et par conséquent, il devient nécessaire de demander à ceux qui auront cette responsabilité de prêter un serment. Que je sache, les gendarmes sont assermentés, les notaires sont assermentés, mais ceux qui avaient en main la vie et la mort des patients, il fallait bien qu'ils le fussent, n'est-ce pas ? Et par conséquent, Hippocrate a inventé le serment d'Hippocrate. Alors, et ce serment est prêté d'âge en âge, depuis l'époque. Oh, c'est peut-être pas historiquement tout à fait exact, mais enfin, c'est une légende. Et jusqu'à maintenant, les étudiants en médecine prêtent ce serment. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement les médecins qui sont responsables de vie ou de mort, etc., mais à peu près tous les savants aujourd'hui ont montré à quel point ils étaient responsables de tel ou tel type d'événement dans l'histoire. Regardez, à partir d'Hiroshima et Nagasaki, voilà les physiciens. À partir de ces vaisseaux, voilà les chimistes. À partir des manipulations génétiques, voilà les biologistes, et ainsi de suite. Par conséquent, au fur et à mesure que la science s'est développée de façon moderne, la responsabilité du savant devenait analogue à celle des médecins à l'époque d'Hippocrate. Il n'y a pas eu de serment. Mais c'est un manque. Je ne l'ai pas inventé, il est nécessaire. Alors évidemment, je propose qu'à la fin des études, ceux qui se consacreront à cette science seraient quand même bienvenus de prêter un serment de ce genre, comme celui d'Hippocrate autrefois.
Vous les connaissez vraiment par cœur, les deux
oui,
serments ?
Oui, vous pouvez le lire si vous voulez.
Bon, le premier, sur la finalité du travail scientifique. Pour ce qui dépend de moi, je jure de ne point faire servir mes connaissances, mes inventions et les applications que je pourrais tirer de celles-ci à la violence, à la destruction ou à la mort, à la croissance de la misère ou de l'ignorance, à l'asservissement ou à l'inégalité, mais de les dévouer au contraire à l'égalité entre les hommes, à leur survie, à leur élévation et à leur liberté. On a l'impression que ça pourrait être un serment des encyclopédistes, ça.
Qu'il y ait de nouvelles lumières qui s'éclairent dans nos civilisations un peu ténébreuses, ce n'est pas pour me déplaire.
Alors, le deuxième serment, on revient à ce qu'on a failli évoquer qu'à tout saint-froid, qu'on n'est jamais arrivé à traiter. Donc, l'histoire du Mésil est donc à la fois religion, armée, pouvoir économique. Donc, vous dites, le second serment, là, c'est se positionner, comme on dit aujourd'hui, par rapport à la fameuse triade. Vous dites, pour devenir plausible, il faut que, et là, donc, en italique, laïque, il jure de ne servir aucun intérêt militaire ni économique. Là, il y a trois points.
Trois points, c'est les trois points du Mésil.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire le point d'un savant qui inventerait de nouvelles armes, ben, il vaudrait mieux qu'il n'ait pas le pouvoir, etc. Vous voyez, un savant qui serait asservi à des intérêts donnés, évidemment, il ne chercherait pas la vérité, mais chercherait les intérêts en question. Voilà, tout simplement, qu'il soit indépendant des pouvoirs les plus importants en question. Voilà.
Alors, vous terminez votre
Ils le sont d'ailleurs en général.
En indiquant que, pour vous, l'avenir est à l'instauration pour la première fois, et au passage, vous réglez des comptes d'ailleurs avec les Grecs. Vous avez une confrère ou une consoeur à l'académie qui ne va pas être très contente. Là.
Ah bon ? Qu'est-ce que j'ai
oui,
dit
Oui, vous réglez des comptes avec les Grecs.
Ah bon ?
Donc, vous dites que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons les chances de voir apparaître une démocratie fondée sur l'universalité de l'accès au savoir et à l'échange grâce aux nouvelles technologies.
C'est
et
vrai que
et fini l'image de la démocratie bidon des Grecs, vous le dites.
Oui, c'est une démocratie mensongère.
Vous voyez ce que va dire Jacqueline de Romilly.
Elle ne peut pas être en désaccord avec l'idée que la démocratie athénienne excluait les esclaves, excluait les femmes, excluait les vieillards, excluait les étrangers, etc. Et que par conséquent, cette démocratie ne touchait que les adultes de 40 ans, bien formés, etc. C'était une aristocratie abominable, bien entendu. D'ailleurs, à peu près toutes les démocraties l'ont été dans l'histoire, des aristocraties de ce genre. Celle des riches, celle des diplômés, etc. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de démocratie dans l'histoire au sens profond et réel dont on parle.
Dans votre élan, vous avez quand même une phrase étonnante, on dirait du Proudhon, ça, « la hiérarchie, c'est le vol
mm-hmm. ».
Proudhon disait « la propriété, c'est le vol ». Vous dites « la hiérarchie, c'est le vol ».
Je crois que la hiérarchie est animale, tout simplement. La hiérarchie, c'est quelque chose qui est dans les sociétés animales très très bien reconnu et pratiqué. C'est la force du mâle dominant suivie de ses femelles soumises et excluant de ce clan les mâles dominés. Voilà. Mais quand il y a de la hiérarchie entre les hommes, ça ressemble fort à ça. Je ne crois pas que je sois favorable à quelque hiérarchie que ce soit. Je n'en ai jamais pratiqué. Je n'ai jamais été dans une hiérarchie donnée.
Alors, comme vous aimez, bien être un peu à contre-courant de la pensée dominante et surtout de voir plus loin que le bout du nez de la plupart des gens, vous nous dites, au risque de faire rire, je ne dis pas simplement sourire, rire et s'esclaffer un certain nombre de gens, vous nous dites que l'objectif, c'est de vivre la révolution du doux.
C'est-à-dire
D-O-U-X.
Oui, D-O-U-X, bien sûr. La grande découverte des sciences depuis, disons, un demi-siècle aujourd'hui, c'est la distinction qui est devenue classique entre hard et soft, pour parler le latin contemporain. Alors, le hard, c'est la construction mécanique en métal de votre ordinateur. Et le soft, c'est-à-dire le doux, c'est l'ensemble des codes qui programment et qui permet d'échanger de l'information, de recevoir de l'information, de stocker de l'information ou d'émettre de l'information. Et cette quadruple opération se fait sur le doux, c'est-à-dire sur le logiciel, si vous voulez, ce qui est logiciel. Non pas sur le support qui est matériel, c'est-à-dire dur, mais ce qui est imprimé sur ce support, c'est-à-dire doux. Et la grande découverte des sciences contemporaines, c'est de découvrir l'importance de ce doux dans l'univers, aussi bien en astronomie, aussi bien en physique, aussi bien en biochimie, etc. Et par conséquent, c'est une véritable révolution cognitive que de voir l'importance aujourd'hui de ce doux. Vous voyez, alors, ce n'est pas très comique, c'est au contraire une des plus grandes inventions contemporaines. S'il y avait autour de moi toute l'Académie des sciences, elle serait d'accord avec ça.
Vous dites c'est que, le codage. Que ça a été le cas également pour l'écriture et le cas pour l'imprimerie.
Voilà. Alors, ce qui s'est passé là, dans ces deux révolutions, c'est qu'à partir du stade oral, on a pu stocker de l'information sur des supports, et c'est ça l'écriture. Je suis un peu critique par rapport aux historiens qui considèrent que l'histoire commence avec l'écriture, ce qui est une exclusion abominable des peuples sans écriture. Et que la définition occidentale de l'histoire est une exclusion abominable des peuples qui n'ont pas l'écriture.
Vous feriez plaisir à Lévi-Strauss.
Oui, à Lévi-Strauss, mais je ne ferai pas plaisir aux historiens, je vois. Alors ça, c'est la première révolution qui est très importante, qui permet, en effet, de coder sur des supports durs des codages doux. Et la seconde révolution, c'est évidemment l'imprimerie, parce que l'imprimerie, à un certain moment, permet de stocker autrement du doux, c'est-à-dire des codes, sur des supports beaucoup plus légers, c'est-à-dire sur du papier, etc., et industrialiser cette opération. Et du coup, l'information se propage beaucoup plus qu'avec l'invention de l'écriture. Et la troisième révolution, c'est les nouvelles technologies, où en effet, ce doux-là, ce codage, est imprimé sur des supports différents, sur du dur différent, mais qui propage encore plus l'information. Ça permet l'accès universel dont je parlais tout à l'heure.
Il ne nous reste que quelques minutes, une question plus personnelle. Est-ce qu'il est exact que c'est la découverte de l'existence de la bombe d'Hiroshima qui a développé chez vous la volonté de devenir un philosophe des sciences ?
Oui, j'étais scientifique à l'origine. Oui, j'étais scientifique, j'étais mathématicien à l'origine. Et les problèmes concernant l'éthique des sciences, qu'on a appelé l'éthique des sciences depuis, a été en effet à l'origine de la décision de bifurquer, c'est-à-dire de quitter les sciences pour faire de la philosophie. Oui, c'est vrai.
Et vous avez été marqué également, semble-t-il, par Simone Weil, la philosophe, l'auteur de La pesanteur et la grâce. En quoi son regard sur, en particulier, les violences a joué un rôle dans votre
démarche ? C'était une philosophe qui était très, très proche des questions concernant la violence, concernant la guerre, concernant etc. Et donc, elle m'a beaucoup influencé à cette époque-là. Je me rappelle avoir lu avec beaucoup d'attention à cette époque-là ce qu'elle avait écrit. Et j'avais 18 ans à cette époque-là.
Ouais. Alors, tous ceux qui ont suivi vos enseignements savent que les amphis avec vous sont toujours bourrés. À quoi tient cette passion d'enseigner chez vous ?
Ça, je ne peux pas le dire. Je crois que le savoir rend heureux, que le savoir rend libre et que propager le savoir a été pour moi une vocation essentielle, en effet. Oui. Propager le savoir.
Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que vous retenez de plus fort de votre héritage familial, cette lignée de mariniers paysans du Sud-Ouest ?
C'est eux qui m'ont légué probablement ce que je dis aujourd'hui. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un monde, l'idée que les politiques sont polices de la cité et non pas de l'espace rural, l'idée qu'aujourd'hui on met à mal les fleuves, les mers, les vivants, que les espèces vivantes meurent à des rythmes affolants, etc. Je crois que je ne l'aurais pas vu de façon si nette et si vive si je n'avais pas eu une formation agricole, marinière, marine, etc. Ça, c'est sûr. C'est probablement à cette formation que je le dois et non pas à l'université.
Alors, dans votre discours de réception à l'Académie française, donc en janvier 1991, vous avez prononcé une phrase qui a étonné tout le monde. Vous aviez dit « Dieu est notre pudeur ».
Je ne peux pas répondre sur cette question parce que c'est justement l'appel à la pudeur qui me permet de ne pas répondre.
Ça a bousculé les gens, cette phrase-là, « Dieu est notre pudeur ».
C'est la pudeur. On ne parle pas de choses qui sont l'intime de l'intime.
On vous laissera dans votre intimité avec Dieu. Au fond, je pense à un livre que vous avez écrit il y a quand même pas mal d'années, « Rameau », qui était un livre superbe. Vous n'êtes pas mal à l'aise, vous, dans l'inquiétude du présent. Au contraire, vous vous nourrissez de l'inquiétude du présent. Vous n'êtes pas fait pour une époque qui est, vous.
Je ne fais pas partie de ceux qui crachent sur le présent. Je ne suis pas un vieux grognon. Voilà. Le vieux ronchon et celui qui dit que le présent est une catastrophe, etc., que c'était tellement mieux dans le passé.
Mais ça, on l'a
bien,
entendu
ce n'est
depuis.
Pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi, dans mon passé, il y a eu 100 millions de morts pendant les guerres que j'ai connues. J'ai connu la guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale, les guerres coloniales, etc. Ce n'est pas un passé très reluisant. Je préfère de beaucoup le présent, vous voyez. Donc même objectivement, je préfère le présent. Et d'autre part, je préfère le présent pour les raisons qui président à la totalité de notre entretien, c'est qu'il se passe des choses tellement fondamentales que je voudrais bien avoir 18 ans pour pouvoir les traiter de façon plus complète. Vous voyez, c'est-à-dire, le gradient de changement est tellement puissant aujourd'hui que ça en fait une période tout à fait passionnante.
Michel Serres, merci. Donc, nous attendrons avec beaucoup d'intérêt vos développements sur la Wafel et la façon donc, d'organiser ce Parlement mondial. Je rappelle le titre de votre dernier livre, donc, « Temps des crises » avec ce sous-titre, hein, il faut le rappeler. Mais que révèle le séisme financier et boursier qui nous secoue aujourd'hui ? Si nous vivons une crise, aucun retour en arrière n'est possible. Il faut donc inventer du nouveau. Vaste programme, aurait-il le général de Gaulle. Hein.
La philosophie, c'est toujours l'invention du nouveau.
Et je voudrais rappeler pour terminer aussi donc, cette citation donc, de vous qui a clos avant-hier, donc le 8 février 2010, la séance de l'Académie des sciences qui portait sur biodiversité face aux activités humaines. Donc cette phrase que je laisse à vos méditations, « La Terre, jadis notre mère, est devenue notre fille ». Merci à tous et à toutes d'être avec nous.